Et bon réveil à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 27 septembre 2016 et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les salariés d'Alstom sont appelés à se mobiliser pour sauver le site de Belfort. Grève et manifestation aujourd'hui, focus sur ces salariés belfortins dans ce journal partagé entre inquiétude, amertume et combativité.
Douche glacée pour le gouvernement, le chômage est reparti à la hausse au mois d'août.
Ambiance électrique et passe d'armes très vive cette nuit entre Hillary Clinton et Donald Trump aux États-Unis. Les principaux candidats à la Maison-Blanche se sont affrontés pour la première fois lors d'un débat télévisé. 7h13, le billet économique.
Marie Viennot parlera de la Deutsche Bank, une banque mal en point. Le sujet du jour, ce sera les algorithmes. Faut-il en avoir peur? Et la question du jour, premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, un tournant dans la campagne, point d'interrogation.
Une grève pour réclamer le maintien de tous les sites français. Les 9000 salariés du groupe Alstom sont appelés à cesser le travail aujourd'hui par l'intersyndicale CFE-CGC, la CGT, CFDT et FO. Une manifestation est organisée à 11h devant le siège de l'entreprise à Saint-Ouen, en région parisienne. Hier, lors d'un CCE extraordinaire, le PDG d'Alstom s'est exprimé face aux représentants du personnel. Une réunion pour rien, ont déclaré ces derniers à la sortie. Pas d'annonce, mais une confirmation, le gel du plan pour Belfort, à savoir transférer la production de locomotives vers un site en Alsace. Décision toujours suspendue et les salariés continuent de craindre pour les 400 emplois concernés à Belfort. Le gouvernement doit faire des annonces sur le sujet d'ici la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine. Cette grève, l'occasion pour nous de nous arrêter plus longuement sur Belfort, site historique de la construction ferroviaire. Delphine Evenou a rencontré ce qu'on appelle les Alstom, ces salariés si attachés à leur entreprise. Des salariés au visage fermé aujourd'hui.
Quand le portillon de l'entrée des trois chaînes tourne sur l'heure du déjeuner, ils sont peu nombreux à accepter de s'exprimer, un peu lassés dans l'angoisse de l'attente. Une trentenaire, le pas pressé, consent quelques mots.
Ça nous prend tous forcément au trip. On essaie de sortir ça de notre tête, mais on est rapidement ramené finalement à la discussion de la situation du groupe parce que y a toujours des nouvelles informations qui vont et viennent. Donc un jour ça va être blanc, un jour ça va être noir, c'est pas évident.
Les salariés se retrouvent sous les feux des projecteurs et en plein cœur d'une bataille politique qu'ils ne maîtrisent pas à 7 mois de la présidentielle. Ils ont l'impression d'être quasi hors-jeu. Maxime, 33 ans, dont 14 déjà passés en tant qu'ouvrier chez Alstom, est un peu amer.
Malheureusement, on le vit entre un PDG d'un côté et des élus de l'autre qui font chacun leur boulot. Le patron et les politiques se donnent la main en se disant « tiens, donne-moi une commande, ça me fera des voix et moi ça me fera un peu de boulot, ça fera parler de nous et dans l'histoire tout le monde s'en sort bien ». Seulement il y a les employés et les ouvriers qui se retrouvent au milieu et c'est pas forcément la meilleure des places.
Et en plus de l'inquiétude professionnelle, s'ajoutent les questions sur la vie personnelle.
Il y a un emprunt, il y a un appartement qui est acheté, il y a deux enfants. En étant en plus de ça divorcé, je me vois pas partir à 250 km, voire plus d'ici, et de laisser mes enfants ici.
Il y a donc les jeunes salariés qui doivent réfléchir à la suite de leur carrière. Et puis ceux qui se demandent comment la leur va se terminer. La moyenne d'âge est de 48 ans sur le site de Belfort. En cas de non-reclassement, comment retrouver du travail à cet âge-là? Ou comment espérer toucher une retraite décente? Devant le parking d'Alstom, Dominique a du mal à digérer la nouvelle.
Il me restait 4 ans à faire. Et honnêtement, je suis hyper vexée qu'on puisse me dire, avec tout ce que j'ai donné, tu vas aller pointer au chômage. Et en plus, c'est tout du déguisement déguisé. On va licencier personne, bien sûr que si, à la fin, si on est tous là, encore les 400 à refuser à l'air réchauffer, ils vont faire quoi? Personne n'est dupe, c'est pas parce que nous sommes des ouvriers, des gens de la province, qu'on n'est pas capable de comprendre les choses. Et ça, c'est ce qui blesse les gens. C'est nous qui faisons tourner l'usine, c'est pas les bureaucrates qui sont à Paris.
Des salariés blessés, certains craquent, pleurent, même 3 semaines après l'annonce, raconte Dominique. D'autres s'énervent plus facilement. Il faut dire qu'avec cette annonce faite en 10 minutes, le 7 septembre, les Alstom se sont sentis humiliés et méprisés, mais ils veulent continuer à regarder vers l'avenir. Tous les salariés réclament une politique ambitieuse du ferroviaire en France pour pérenniser le site de Belfort. Ils attendent de pied ferme la copie du gouvernement sur le sujet en début de semaine prochaine. semaine.
Un reportage signé Delphine Evenoux et Jean-Pierre Pernel, l'avenir du site d'Alstom à Belfort et les conséquences d'un éventuel arrêt de la production ferroviaire sur le tissu économique local. On y revient dans le choix de la rédaction avec Hakim Kasmi dans le journal de 7h30. Autre source d'inquiétude sur le front social, la forte hausse du chômage au mois d'août, plus 1,4% par rapport à juillet dernier. 3 810 000 demandeurs d'emploi sans aucune activité dans toute la France. Un contraste avec les résultats du mois de juillet où le chômage reculait d'un demi-point. Toutes les catégories, toutes les tranches d'âge sont concernées. Les jeunes, encore plus que les autres. Une dégradation du marché du travail que le gouvernement impute en partie aux attentats, mais pas seulement, Jean-Marc Chardon.
Qu'il y ait un effet attentat entraînant des répercussions en chaîne sur la filière touristique, il semble se vérifier, que ce soit en Île-de-France et singulièrement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, effet cumulé depuis le début de l'année pour l'Île-de-France où 500 000 emplois sont liés au tourisme. Effet plus saisonnier en région PACA où le chômage a progressé de 1,5% à près de 2% en août, plus que la moyenne nationale, et cela après un mauvais mois de juillet. Qu'il y ait également une montée nationale du chômage conjoncturel liée à des défauts d'actualisation au mois d'août, c'est aussi une réalité. Mais au-delà, il y a bien le fait que le rythme de croissance paraît à la merci d'événements extérieurs, inondations, puis grève du printemps, et ne crée pas suffisamment d'emplois. Perte d'emplois dans l'industrie, début d'amélioration dans le BTP, amélioration dans les services, mais entre le nombre d'emplois créés et ceux qui sont détruits, le compte n'y est toujours pas. La montée en charge des emplois aidés ne suffit pas à compenser et les chômeurs, longue et très longue durée, repartent eux aussi à la hausse. La tendance au début de l'année était pourtant pleine de promesses. Maintenant, les économistes guettent les chiffres de croissance des 3 et 4e trimestres pour savoir s'ils permettront de créer des gains en emploi.
Et c'est justement le pari de François Hollande, la fameuse inversion de la courbe du chômage pour se représenter à l'élection présidentielle. La hausse du chômage en août qui n'a pas douché l'enthousiasme des ministres Stéphane Le Foll et Najat Vallaud-Belkacem, tous deux à Gières, près de Grenoble, hier, pour un meeting de mobilisation des militants socialistes. Ils ont défendu le bilan du quinquennat et pour accentuer l'offensive contre la droite, pour lutter aussi contre l'éparpillement des voix de la gauche dans le dispositif de pré-campagne du probable candidat Hollande, un outil. Après EO, la gauche, les Hollandais lancent un site baptisé « Notre idée de la France », Ludovic Piétenu.
Un site internet pour affirmer sur la toile ce que François Hollande a dit le 8 septembre Salvagram et qu'il ne va cesser de répéter ces prochains mois, comme ce matin pour les 350 ans de l'Académie des sciences. Un site internet pour dénoncer le bloc réactionnaire, celui qui prône l'identité à tout bout de champ, plutôt que l'idée de la France. Car la France, c'est d'abord une idée, avait dit le chef de l'État à Paris. Ses soutiens vont donc lancer notreidedelafrance.fr avec pour objectif de valoriser le quinquennat et le nom du site sonne déjà comme un slogan de campagne, déclinable à l'infini dans des discours ou sur les réseaux sociaux. Notre idée de la France, c'est ceci, c'est cela. On imagine déjà le successeur de l'anaphore du moi président. Mais c'est avant tout un dispositif de pré-campagne pour réaffirmer le clivage et remobiliser l'électorat de gauche, espère son initiateur Stéphane Le Foll. Le site sera participatif, chacun pourra venir apporter ses propositions pour le programme du candidat Hollande, une initiative qui apparaît comme un signe de plus de la part de ses amis pour le presser d'accélérer son annonce, car pendant ce temps-là, s'il y en a bien un qui prépare sa mise sur orbite, c'est son ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron.
Les images de ses chemises en lambeaux avaient fait le tour du monde et terni un peu plus la réputation de la France en matière de dialogue social. L'affaire des chemises arrachées à des cadres d'Air France repasse en justice. Aujourd'hui, 15 salariés comparaissent à Bobigny pour dégradation ou violences volontaires aggravées. Deux anciens patrons de la police en garde à vue, l'ancien directeur du renseignement intérieur, Bernard Squarcini et l'ancien chef de la police judiciaire parisienne, Christian Flech, sont actuellement dans les locaux de la police des polices. Pas d'information du parquet de Paris, mais ces auditions pourraient être menées dans le cadre d'une enquête ouverte en marge de l'information judiciaire sur les accusations de financement par la Libye de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Bernard Squarcini et Christian Flech sont proches de l'ancien chef de l'État, tout comme Michel Godin, l'actuel directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy et ancien directeur de la police nationale, Michel Godin, qui lui a été entendu librement.
7h09, la suite du journal sur France Culture. Catherine Dutu, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la Colombie.
Bogota, qui a signé la paix avec les FARC cette nuit à Cartagène. Un accord de paix enfin paraphé pour mettre fin à 52 ans de conflit armé. On y revient dans le journal de 7h30. Aux États-Unis, c'est l'événement de la nuit, le premier débat télévisé entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump, les deux principaux candidats à la présidentielle du 8 novembre prochain. L'affrontement était très tendu entre les deux adversaires, débat suivi par Frédéric Carbone pour France Culture.
Ce fut une heure et demie d'affrontement avec une Hillary Clinton à l'offensive pour ne pas laisser Donald Trump endosser tranquillement le costume de président crédible. Elle l'appelle d'ailleurs systématiquement par son prénom et elle remonte le fil de l'histoire Trump. Les déclarations fiscales qu'il refuse de rendre publiques, il doit avoir quelque chose à cacher, le refus d'admettre que Barack Obama est américain, elle parle de comportement raciste et ses affaires et la façon dont il a traité ceux qui travaillaient pour lui.
Est-ce
que vous ne pensez pas que les milliers de personnes que vous avez escroquées méritent des excuses, lance la candidate démocrate. Donald Trump est obligé pour la première fois de se défendre, mais il n'abandonne pas le terrain à sa rivale. Hillary Clinton, pour lui, c'est avant tout la candidate du passé.
You've been doing this.
Ça fait 40 ans que vous êtes au pouvoir et vous commencez à penser à des solutions. Trump, l'agent du changement, Trump, l'homme qui va renégocier les traités commerciaux, il est temps que l'Amérique soit dirigée par un homme qui connaît l'argent. À la fin du débat, Donald Trump se dit satisfait, sûr d'avoir gagné. Dans son entourage, certains ajoutent qu'il a connu de meilleures soirées.
Frédéric Carbone aux États-Unis pour France Culture. Quasiment plus de pain ni de médicaments dans les quartiers rebelles de la métropole d'Alep, au nord de la Syrie. Une ville sous le feu d'intenses bombardements depuis la fin de la semaine dernière, des bombardements du régime syrien et de la Russie. Moscou, qui n'a pas vraiment apprécié d'être accusé de crimes de guerre et de barbarie dimanche au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Kremlin est donc passé à la contre-offensive sur le plan diplomatique. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé les États-Unis de vouloir protéger des rebelles et des djihadistes comme ceux du front Al-Nosra. Le temps de ce mardi 27 septembre, gris sur la façade ouest du pays, mais aussi à l'est de l'Inde jusqu'à l'Alsace, plus ensoleillé sur le reste du pays. Un risque d'averse cet après-midi sur les reliefs et la Corse. Les températures maximales comprises entre 19 et 26 degrés du nord au sud. Il fera cet après-midi 20 degrés à Cherbourg, 21 à Mulhouse, 22 à Lens, Paris et Tours, 23 degrés à Angoulême, 23 degrés également au Mans, 26 à Avignon et jusqu'à 28 en Corse.